Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Face à Mathieu Bocoté. Cher Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Arthur de Vatrigan.
Bonsoir Elliot.
Ravi de vous retrouver. On commence dans un instant, mais avant cela, c'est le point sur l'information avec Barbara Durand. Bonsoir Barbara.
Bonsoir Elliot, bonsoir à tous. Dans l'actualité, ce samedi, l'armée américaine a mis ses menaces à exécution. Les États-Unis ont mené ce samedi de nouvelles frappes contre des sites houthis au Yémen. La veille, les rebelles yéménites avaient menacé de riposter aux frappes menées déjà vendredi par les États-Unis et le Royaume-Uni. Les otages retenus dans la bande de Gaza vont recevoir des médicaments dans les prochains jours. Résultat d'un accord entre le Qatar et les autorités israéliennes. La logistique de la livraison reste à finaliser. Pour rappel, plus de 130 otages sont toujours aux mains du Hamas. Enfin, en France, une enquête ouverte dans l'affaire des huîtres contaminées du bassin d'Arcachon. Cela fait suite à plusieurs plaintes déposées, dont une mettant en cause ceux qui savaient depuis novembre et auraient tardé à agir. Après une épidémie de gastro-entérite autour de Noël, la production des ostréiculteurs dans cette zone a été interdite à la vente à partir du 27 décembre.
À la une de Face à Mathieu Bock-Côté, la Macronie promet une révolution avec ce nouveau gouvernement. Son chef, Gabriel Attal, est pourtant là depuis le premier jour. Socialiste convaincu. Qu'importe, les as du commentaire y voient un virage à droite, l'ombre de Nicolas Sarkozy, mais au-delà des noms, quel est le cap ? Une semaine 100% communication, laissant peu de place à l'action. On en parle dans un instant. Au programme également de Face à Bock-Côté, en Écosse, une proposition de loi fait polémique, à savoir la pénalisation de parents qui refuseraient la nouvelle identité de genre de leurs enfants. La sanction pourrait aller jusqu'à 7 ans de prison. Est-ce une entrave à l'autorité parentale ? Faut-il y voir une nouvelle dérive woke en Occident ? On en parle dans cette émission. Enfin, Mathieu, vous recevez ce samedi Michel Geoffroy, énarque, essayiste. Il sera question du mondialisme, de la classe mondiale, puisque le forum de Davos s'ouvre ce lundi. Peut-on parler d'idéologie mondialiste ? Vaste programme face à Mathieu Bock-Côté. C'est parti. Et vous voulez commencer, Mathieu Bock-Côté, par ce grand carnaval du remaniement. Certaines nominations, notamment celles du Premier ministre, de la ministre de la Culture, de la ministre de l'Éducation nationale, en amènent à croire que le nouveau gouvernement serait nettement à droite, tout en se demandant comment le même président peut se permettre un tel changement de cap à l'intérieur d'un même quinquennat. Et c'est sur cette question que vous souhaitez revenir pour votre premier édito.
Alors, je veux aider... Je prenne mes services, en fait, à ceux qui, à la manière de théologiens, cherchent aujourd'hui la rationalité idéologique derrière les changements de cap successifs d'Emmanuel Macron. On voit dans le commentariat, on voit chez les commentateurs, cette idée qu'il y a probablement derrière cela une subtilité intellectuelle qui nous échappe à nous, pauvres mortels, et dès lors, il surinterprète idéologiquement. Et je reviendrai pourquoi, à mon avis, la vraie grille de lecture ici, en ce moment, elle n'est pas idéologique, elle est politique et plus encore sociologique. Mais pourquoi l'idée de changement de cap ne se comprend qu'à la lumière d'un moment qu'on pourrait appeler SOS Bloc Central, c'est-à-dire le Bloc Central, la Macronie, le parti européo, on pourrait dire post-national progressiste, a peur comme jamais pour son avenir comme bloc qui exerce le pouvoir et qui, pour cela, est prêt à toutes les contorsions idéologiques et mentales pour se maintenir. Parce qu'effectivement, vu de loin, on peut se dire comment le même président, je crois que c'est toujours Emmanuel Macron qui est au pouvoir, a pu nommer successivement Jean-Michel Blanquer, puis Pap Ndiaye, puis Gabriel Attal, et considérer que le passage de Gabriel Attal, qui s'est d'abord distingué par sa capacité à rejeter Pap Ndiaye, fait en sorte qu'on peut le propulser au rang de Premier ministre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une constante idéologique chez Emmanuel Macron en matière d'éducation? D'éducation, pardonnez-moi, mais plus largement dans la vision du pays. De la même manière, Comment peut-on passer de celle qui s'était spécialisée dans les menaces à l'endroit des rédactions, Mme Abdul-Malak, qui avait menacé de fermer CNews? On avait l'impression, lorsqu'elle parlait, que c'était la ministre de la Culture du Tadjikistan. Bon. Et, ou encore, qui se permettait, quand Geoffroy Lejeune est nommé au JDD, elle se permettait de se prononcer sur la nomination d'une direction, d'un directeur dans un journal, donc la gestion interne d'un journal, mais elle n'avait rien à dire sur les dérapages à répétition de France, à France Inter ou France Culture. Ça ne l'intéressait pas. Donc voilà, dégage, bah, très bien, ça, personne ne la pleurera, sauf la direction, évidemment, des élites culturelles en France, mais ça, bon, c'est inévitable, hein. C'est un petit milieu qui pleure le départ de l'une de quelqu'un qui appartenait à ce microcosme. Mais au même moment, qu'est-ce qu'on voit? Ouais, Madame Dati, qui est le canal sarkozyste historique qui s'empare de la culture. Donc là, on se dit, est-ce qu'il y a quelque cohérence à travers cela? Donc, les théologiens du commentaire médiatique cherchent la subtilité idéologique. Pas du tout. Erreur de lecture. Ce qu'on doit comprendre ici, c'est que le fameux Bloc central, hein, qui se prend pour l'expression de la seule France légitime, parce que sinon, d'un côté, il y a la France des bouseux, c'est le Bloc national, et de l'autre côté, il y a la France des factieux, des terribles factieux d'extrême-gauche. Ça, c'est LFI. Eh bien, on a la France seule légitime, la France centrale. Vous savez, Giscard disait, nous allons créer un pôle central, un parti central qui va rassembler 2 Français sur 3. Mais aujourd'hui, la Macronie, c'est 1 Français sur 3 et peut-être 1 Français sur 4, et peut-être un peu moins que ça. Donc, ce groupe, cette sociologie, voit émerger, moins à gauche, soyons sérieux d'ailleurs, qu'à droite, avec le Bloc national, voit émerger non pas une alternance. Vous savez, l'alternance, il y en a dans tous les systèmes politiques. Hein. Républicains, démocrates, travaillistes, conservateurs, PS, RPR, UDF, PS. Bon, on connaît ça. Là, ce n'est pas de ça dont on parle ici. Ce dont on parle, c'est d'une alternative. D'une alternative, c'est-à-dire une classe politique de remplacement incarnée par le Bloc national au sens large. J'évite de lui donner un nom de parti en particulier parce que plusieurs éléments s'y croisent. Hein. Vous avez l'aile droite DLR, vous avez le RN, vous avez Reconquête, vous avez ceux qui se retrouvent là parce que finalement ils sont à la recherche d'une opposition profonde. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans devant l'émergence d'une classe politique alternative qui, si elle prenait le pouvoir, représenterait le congédiement de tout l'ancien monde, de l'ancien système politique? Eh bien, c'est le mode panique. Et là, qu'est-ce qu'on comprend donc du Bloc central? Mais première chose, il n'a finalement qu'une seule conviction. Une conviction plus forte que tout. C'est l'Europe. Ça, je pense que si il y a un cap dont Emmanuel Macron ne dérive pas, c'est l'européisme. Et ça, dans son esprit, et l'européisme, c'est plus que l'Europe. Hein. L'européisme, c'est une certaine lecture de la mondialisation. L'européisme, c'est une certaine lecture du post-nationalisme. L'européisme, c'est une certaine lecture aussi du rapport aux frontières. Mais ça, c'est le cap. Pour le reste, et là on revient aux nominations, Pape Ndiaye, Gabriel Attal, ainsi de suite, la Macronie peut emprunter, le Bloc central peut emprunter tous les discours de gauche, de droite, laïciste, anti-laïciste, woke, anti-woke, qu'importe. Tous les discours deviennent simplement des discours de nature instrumentale. Donc, il y a une absence totale de conviction dans le Bloc central en ce moment. Une absence totale de conviction. Donc, ils peuvent dire, on pourrait dire demain, il y a une politique sur la sécurité qui pourrait être tout autre après-demain si les circonstances l'exigeaient. Est-ce que c'est simplement parce que le gouvernement est particulièrement sensible à l'humeur de la population? Pas du tout. C'est que derrière ça, ce Bloc central se sentant menacé, mais tous les éléments qu'il compose et qui appartiennent au système politique qui est un peu en train de s'engloutir en ce moment, donc les anciens PS, mais les anciens LR, mais les anciens centristes, tous ces gens qui s'opposaient, mais qui avaient le même langage, tous ces gens qui s'opposaient, mais qui s'échangeaient des postes sans jamais vraiment changer de politique, ces gens-là prennent peur. De quelle manière prennent-ils peur? Ils voient donc émerger une alternative politique plus large, donc qu'ils nomment extrême droite en toutes circonstances. Hein. Plus vos positions sont menacées dans notre société, plus vous mobilisez le logiciel antifasciste. Ça, je pense qu'on a fini par le comprendre. Plus vous vous sentez menacé dans votre poste et votre carrière, plus vous mobilisez l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale en expliquant que ce sont les fachos qui reviennent. Bon, c'est un peu particulier quand même. Et là, ce qu'on a appelé l'extrême-centre, la formule d'Emmanuel Macron, pas de moi, ce que d'autres appellent autour de Marianne, ils appellent ça le centrisme autoritaire. J'utilise le terme bloc central, ça me semble plus neutre. Qu'est-ce qu'on voit? Ce bloc central est prêt à tout pour se sauver, à dire absolument tout, et toutes ses anciennes composantes se sont d'abord rassemblées autour d'Emmanuel Macron une première fois en 2017 parce qu'ils sentaient que ça commençait à tanguer. Et là, aujourd'hui, il fusionne, en fait. Ce qui fait que vous avez, finalement, sous un même président, vous aurez eu, c'est intéressant, Édouard Philippe, Jean Castex, Élisabeth Borne, Gabriel Attal, et tous ceux que j'ai nommés. Donc, tous ces gens, finalement, n'ont en commun qu'une chose, de participer ensemble au canot de sauvetage d'une classe politique, d'un système, d'un milieu qui laisse de côté les idées et qui a comme simple principe, on garde les places.
Alors, à vous entendre, Mathieu Bocquet, il s'agit moins de changer de cap idéologique par conviction que pour garder le pouvoir à tout prix.
Ah ben, je pense que c'est d'une clarté. C'est-à-dire, c'est le principe d'intelligibilité des événements présents. Alors, si on cherche à comprendre, parce que Emmanuel Macron, qui est un homme d'une intelligence indéniable, tous en conviennent, on suppose que sa vision de l'éducation, de l'école, à lui, sa vision personnelle, est assez stable. Puis on la devine plus classique qu'autre chose. Donc, s'il est capable de tout embrasser comme ligne politique, comme j'ai dit du Papendiaï à Attal, en passant, sans oublier Blanquer au début, c'est que manifestement, ça ne se joue pas sur le plan des convictions. Ça se joue sur on dira ce qu'il faut pour se maintenir. Mais là, il y a un enjeu fondamental qui se pose ici. Que faire des hommes et des femmes qui appartiennent au monde d'hier, mais qui se désolidarisent de ce qu'ils deviennent dans ce bloc central et qui, mais ne veulent pas pour autant rejoindre la nouvelle classe politique en émergence. Derrière ce vocabulaire un peu neutralisé, je parle évidemment de nos amis LR. Donc la droite LR. Je ne parle pas de tous les LR. Je ne parle pas des LR municipaux. Je ne parle pas des LR ordinaires. Je parle de la droite idéologique LR. Donc Retailleau, Lisnard, Bellamy. Faites la liste de ces gens qui, Morano aussi à sa manière, mais surtout ceux que j'ai évoqués, Wauquiez, qui représentent cette droite-là. Et là, c'est quoi leur avenir? Soit, eux, ils espéraient quoi? Ils espéraient fondamentalement que la Macronie se poursuivrait sous le signe d'Élisabeth Borne, que ça finirait par se décomposer, qu'ils ramasseraient l'aile droite de la Macronie, les déçus du zémourisme, et que la droite LR soit le pôle de recomposition d'une vie politique dans les paramètres du système politique actuel. Mais là, c'est une hypothèse de moins en moins possible, de moins en moins réaliste. Donc, ils sont abandonnés. Et quelle est leur option? Il y en a trois pour eux. Soit consentir à l'annexion tardive par le bloc central dont il serait un peu la conscience conservatrice, mais pour l'instant, ils n'ont pas l'air de vouloir ça, soit rejoindre le bloc national en émergence dont il serait l'aile gouvernementale avec un capital de culture gouvernementale, soit consentir à tomber dans les failles de l'histoire à la manière d'une option politique qui se sera crue indispensable jusqu'au bout, mais qui se sera finalement suicidée par nostalgie du rôle qu'elle avait autrefois. Que feront les LR de droite dans la prochaine configuration politique? Seront-ils tranchés ou préféreront-ils s'auto-anéantir? La deuxième option n'est pas exclure.
Vous avez évoqué l'européisme du bloc central dans la première question et vous souhaitez revenir pour terminer cette chronique sur une nouvelle déclaration. Vous en parlez assez souvent, c'est votre amie de la commissaire européenne, Ilsa Johansson.
Oui.
Dont vous nous avez souvent parlé ici.
Oui, il faut toujours parler d'Ilsa Johansson. Il ne faut jamais l'oublier. C'est la commissaire à l'Union européenne qui me fait le plus penser à ce que pouvait être un apparatchik soviétique. Donc, cette dame issue du crypto-communisme suédois. Non, j'adore ça. Vous savez, une partie importante de l'Europe, le continent qui porte la civilisation, qui porte une partie du destin du monde, est aujourd'hui pilotée par une ancienne crypto-communiste suédoise. Il y a quelque chose d'absurde là-dedans. Quoi qu'il en soit, cette dame, qui est l'immigrationniste enragée de la Commission européenne, était de passage en Grèce lundi. Et elle a tenu encore une fois un discours qui nous rappelle que pour ces gens, l'immigration massive n'est pas une fatalité, mais un projet. Mais un projet. Quel projet? Je cite deux, trois phrases. « Sans migration, nous mourrons de faim, car nous avons besoin de la migration, mais nous en avons besoin de manière ordonnée. Nous mourrons de faim. » Donc, sans l'immigration massive, l'Europe meurt de faim. OK, d'accord. Bravo, Ilsa. Mais elle le dit de manière ordonnée. Donc là, on pourrait dire, ah oui, qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que pour elle, l'immigration massive, c'est pas un problème. Mais elle constate que les gens n'apprécient pas l'immigration illégale. Donc, elle nous dit mot pour mot, « Je pense que c'est vraiment ce que nos citoyens nous demandent. Ce n'est pas combien de migrants il y a, et c'est comment pouvons-nous le faire de manière ordonnée. » Donc, pour elle, la question du nombre est secondaire. Elle ne compte pas. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais il faut, donc on va transformer les immigrants illégaux en immigrants légaux, il n'y aura plus de problème. Et sinon, pourquoi il y aurait des problèmes d'intégration? S'il reste des problèmes d'intégration, vous les expliquez comment? Ilsa Johansson a la réponse. Elle nous le dit. Il y a aussi un poison, et que c'est la xénophobie et le racisme. Et il faut s'y attaquer parce que c'est ce poison dans la société qui entravera tout le bon résultat que nous pourrions avoir d'une bonne gestion d'immigration. Donc on comprenne bien. Si ça fonctionne mal, l'intégration, c'est parce que les sociétés occidentales européennes sont profondément racistes, xénophobes, refusent la diversité, refusent l'inclusion, et ça fait en sorte que nos sociétés ne sont pas capables d'intégrer cette diversité qui est une richesse en toutes circonstances. Ilsa Johansson, un parcours à suivre, il ne faut pas la lâcher. Elle est passionnante, cette néo-soviétique de Bruxelles, venue de Stockholm. C'est quelque chose d'assez fascinant, cette Europe qui cherche à détruire les peuples et qui, de ce point de vue, le fait de manière assez explicite.
Arthur de Vatrigan, revenons sur ce grand remaniement, ce changement de cap ou non. Alors c'est quoi? C'est l'action ou la communication et on s'y perd un peu.
Il faut reconnaître qu'Emmanuel Macron a réussi son petit effet. Hein. On n'attendait pas grand-chose. Alors ça nourrissait des conversations à l'annonce d'un changement de gouvernement. Et on en discute encore plus et ça alimente encore plus les débats depuis que le changement de gouvernement a été fait. Et certains même se surprennent à vouloir, à croire ou à attendre encore quelque chose. Alors je pense qu'une grande majorité de Français s'y intéressent autant que moi. Je me passionne pour une compétition de curling parce qu'ils ont bien compris que le problème, ce n'était pas forcément le casting, mais le directeur de casting. Et tant qu'on ne changeait pas le directeur, ça allait être compliqué de changer de voix. Néanmoins, Emmanuel Macron a donné beaucoup d'os à ronger. Résultat, on ne parle plus de sa claque avec la loi immigration et de son quinquennat assez désastreux, même son quinquennat ennemi assez désastreux. Alors, sur le remaniement, Mathieu a mille fois raison, c'est le triomphe du vide. C'est-à-dire que le seul objectif, c'est en effet de maintenir le système et que la caste maintienne sa caste. Donc ils peuvent être nés avec le tampon LR Sarkozy sur le front ou PS ou maintenant Horizon et Renaissance. La perspective est la même parce qu'en fait, si vous regardez, ils empruntent tous le même toboggan avec comme seul atterrissage, c'est le néant du pouvoir. Bon, après, c'est un peu le problème aussi de la République qui a toujours ses priorités. C'est-à-dire le principe pour un gouvernement, c'est de rameuter, c'est de séduire, c'est de compter les voix. Et le principe pour les hommes, c'est l'ascension du pouvoir. Donc on nomme des ministres selon le baromètre de l'opinion et les prétendants acceptent parce qu'ils vont découvrir les salons cossus d'un ministère et des serviteurs qui vont avec. Et toutes les conséquences, ça, ils s'en tamponnent évidemment. Un exemple, c'est tant pis pour l'éducation nationale, par exemple, qui avait pour une fois un ministre assez audacieux, non pas par ses idées, mais parce qu'il avait très bien compris que l'opinion était prête à sulfater les dogmes progressistes qui ont fait tomber notre école au niveau du classement PISA de la Tanzanie. Tant pis aussi pour la France, hein, puisque de toute façon, pour cette caste, ce pays n'est qu'une vieille femme qui est usée par 2000 ans de labeur et qu'il faudrait euthanasier. Et quant aux Français, ils ont pour eux autant d'utilité qu'un vieux paillasson. Mais Emmanuel Macron l'a rappelé dans ses vœux. Le seul truc qu'on a compris dans ses vœux, c'est cette phrase « Nous aurons à faire le choix d'une Europe plus forte, plus souveraine, à la lumière de l'héritage de Jacques Delors ». Donc l'Union européenne est évidemment la seule boussole. Le destin collectif, conscient du tragique de l'histoire, a déserté depuis bien longtemps les consciences de nos zones d'État. Alors, ok, on peut se réjouir du départ de Madame Nadoul Malak, encore plus quand on a entendu son discours de passation où elle explique qu'elle aurait aimé poursuivre les projets qui lui tiennent à cœur, à savoir la maison du dessin de presse, l'Institut de la France et l'Algérie et la maison des mondes africains. Drôle de conception de notre culture, même si on avait quand même une petite idée de sa conception et de la culture et de la politique, parce qu'elle voulait à chaque fois fermer tout ce avec quoi elle est en désaccord. Et quant à l'autre prise de guerre dont on parle, c'est Madame Vautrin qui a évidemment été attaquée tout de suite, prise à partie par la casse médiatique en raison de sa participation à aux manifs pour tous, donc contre la loi Taubira 2013, comme la grande majorité des LR, mais qui sont toutes subitement atteintes d'Alzheimer. Alors rassurez-vous, chers commentateurs, et obsédés par le sens de l'histoire, elle a vite ployé le genou devant le Saint Progrès en soutenant évidemment la constitutionnalisation de l'IVG, c'était son premier discours. Donc comme c'est encore la période des vœux, moi je n'ai qu'un seul vœu, c'est de demander à ces commentateurs d'éviter et d'arrêter d'employer le mot, le qualificatif de réac à corps et à cri, parce que le mot réac, ce qualificatif, ce beau titre, c'est quelque chose qui se mérite, c'est quelque chose qui se travaille, qui demande des convictions et beaucoup d'honneur.
Partons en Écosse à présent, où un projet de loi, Mathieu Bock-Côté, notamment sur l'identité de genre, suscite de vives réactions. On résumera la polémique ainsi. Dans certains cas, les parents s'opposant à la transition de genre de leur enfant et cherchant à l'entraver pourraient se retrouver en prison. De quoi s'agit-il exactement?
Alors, si je vous parle de ce qui se passe en Écosse, c'est que ça se passera demain. Ici aussi, ailleurs. C'est en vrai, les mauvaises idées en Occident circulent à grande vitesse et on parle ici d'une idée de ce genre. Alors qu'est-ce qu'on trouve derrière ça? D'abord, il y a la théorie du genre dont on parle souvent ici, cette idée comme quoi hommes et femmes sont en fait de pure construction sociale, que le corps sexué ne dit rien de l'identité profonde d'une personne, qu'on peut choisir son genre, entre guillemets, indépendamment de son sexe biologique. Ça, c'est... Qui est de la dysphorie de genre? Vous savez, la dysphorie de genre, ça existe, mais c'est très, très rare, la dysphorie de genre. nos progressistes veulent un peu partout aujourd'hui dans le monde occidental faire de la théorie de genre le nouveau modèle de l'identité. Donc, poussent de plus en plus les nouvelles générations à se questionner sur leur identité de genre. Vous savez, de plus en plus de professeurs vous le diront dans leur classe, et ça, c'est surtout vrai en Amérique du Nord, mais ça se transporte ici. Des professeurs vous le diront, auparavant, il va y avoir un élève sur 20 écoles qui se questionnait sur son identité de genre. Maintenant, il y en a de plus en plus dans les écoles, dans les classes et tout ça. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Il y a une propagande active pour pousser sur les réseaux sociaux, mais de toute la mouvance transradicale. On s'entend, je ne parle pas ici des gens qui ont une... Je reviens à la sujet ici, je ne parle pas des gens qui ont une question d'identité de genre, je parle de la mouvance trans qui veut faire de l'identité trans l'identité de référence et qui s'en prennent aux enfants en disant « Questionne-toi sur ton identité de genre, questionne-toi sur ce qui tu es vraiment. » Les jeunes, le propre d'un jeune, c'est de se questionner sur qui il est. Alors, si le type de question qu'il se pose existentiellement, tout jeune, eh bien, on lui met dans la tête, en fait, doute de ton corps, avec tout ce que ça représente aujourd'hui comme mutilation psychique, une mutilation physique, possiblement, quand on décide de... ou encore les bloqueurs d'hormones et tout ça. Mais il y a tout un mouvement qui cherche, justement, à jouer avec l'identité des jeunes générations. J'en arrive tout de suite à la question centrale, les parents. Et on parlera ensuite de l'autorité parentale qui est piétinée. Mais on y revient un instant. Les parents, devant ça, peuvent se dire « Je m'excuse, mais si le jeune arrive à la maison et il dit « Je suis désolé, en fait, papa, je ne suis plus, je ne suis pas Gaston, je m'appelle désormais Geneviève. » Ou vous savez, notamment, quand on prend un prénom d'un autre genre, on le prend souvent un prénom américain. Hein, comme quoi, il y a une dimension d'américanisation des mentalités là-dedans. Ben, un parent qui dirait « Je suis désolé, c'est pas possible. Faut que tu te calmes un peu, ça va te passer, ne t'inquiète pas. Tu es une fille et tu vas demeurer une fille. Et même si pour l'instant, on t'a mis en tête autre chose, eh bien, s'il décide de faire entrave. » Et là, il faut comprendre qu'on est dans un processus où les travailleurs sociaux peuvent s'en mêler en disant « Non, mais là, il y a quand même un problème. Là, le père ne reconnaît pas la démarche de transition de genre de son enfant. » Puis le travailleur social dit « c'est presque de la maltraitance parentale. Ne pas accepter la transition de genre de son enfant, c'est de la maltraitance parentale. » Et bien là, vous entrez dans une possibilité d'emprisonnement du parent qui refuserait d'accompagner la transition de genre de son enfant jusqu'à 7 ans de prison. Jusqu'à 7 ans de prison. Et comment on nous vend ça? En nous disant que s'opposer à la transition de genre, c'est comme faire le plaidoyer pour une thérapie de conversion. Vous savez, les thérapies de conversion, c'est ceux qui cherchent à faire en sorte que, par exemple, les homosexuels deviennent hétéros. Effectivement, c'est du délire, ça, qu'on fiche la paix aux gens sur leur orientation sexuelle. Mais là, on cherche à nous faire croire que dire à un enfant de 7 ans « Oui, t'es un garçon, t'es peut-être pas une petite fille », c'est l'équivalent que de chercher à faire changer l'orientation sexuelle un homosexuel pour le faire devenir hétéro. C'est absurde. Donc, on cherche à faire passer comme étant une forme nouvelle de thérapie de conversion, le fait de s'opposer à la théorie du genre, aux effets de la théorie du genre chez les enfants. Donc, devant tout cela, on est effectivement, je crois, devant une forme de coup de force contre l'autorité parentale, mais je crois qu'on y revient.
Justement, l'autorité parentale, selon vous, est-ce qu'elle est piétinée à travers cette proposition?
Elle est piétinée, elle est méprisée, elle est écrasée. Les parents, finalement, qui ne souscrivent pas à la théorie du genre et à ses effets dans le domaine de la construction de la personnalité de l'enfant, pourront être accusés. De maltraitance envers leurs enfants, pourront se retrouver en prison, pourront perdre la garde de leurs enfants parce qu'ils n'auront pas accepté de prendre au sérieux, d'accompagner les idéologues radicaux du genre qui cherchent à pousser les enfants à changer d'identité de genre, à changer de sexe. On est quand même, ça se passe en Écosse, demandez-vous si demain ça se passera pas ailleurs.
Arthur de Valtrigan, quel regard vous portez sur cette actualité qui nous vient, je le rappelle, et vous l'avez bien dit, d'Écosse?
Oui, mais qui existe en France en fait, elle est déjà là en France. Alors, dysphorie de genre, on est sur un trouble qui concerne, selon les chiffres, entre 0,002% et 0,014%, c'est-à-dire quelque chose de très rare. Et pourtant, on veut en faire une règle. Quand on écoute les lobbies, on parle de sexe assigné à la naissance, comme si l'attribution du sexe à l'enfant était une décision arbitraire des parents. Et on interprète toute dépression adolescente aujourd'hui comme un malaise dans le genre. Alors évidemment, c'est très bien ce qui joue derrière. On a le rêve prométhéen du réengendrement de soi qui est porté par les lobbies LGBT en tout genre, évidemment. Sauf que la conséquence, c'est au mieux le vol de l'enfance, au pire la mutilation de l'enfant, avec cette conséquence aussi, c'est d'en faire des patients à vie. Parce qu'une fois que vous êtes rentré dans le processus, les médocs, c'est à vie. Et on fait tout, évidemment, pour écarter les parents de ces décisions irréversibles. Les parents dissuasifs sont considérés, évidemment, comme des affreux réactionnaires à qui on promet le suicide de l'enfant s'ils n'écoutent pas et s'ils ne se soumettent pas au diapason et de lobby. Mais on fait également tout pour écarter du processus les médecins. Un exemple, en 2010, un décret signé par Mme Bachelot a fait supprimer la transsexualité de la liste des affections psychiatriques. Donc c'est clair que la transidentité ne révèle plus de la santé mentale, mais de la santé sexuelle. Donc on dépathologise pour écarter l'expertise médicale. Autre exemple, 2021, une circulaire de Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l'Éducation nationale, qui explique, qui permet aux élèves de changer de prénom s'ils le souhaitent, obligeant, je cite, l'établissement scolaire à substituer le prénom d'usage de manière cohérente et simultanée dans tous les documents qui relèvent de l'organisation interne. Et la même année, Mathieu en a parlé, sournoisement, on a glissé dans la loi sur les thérapies de conversion qui a été votée, le texte inscrit dans le code pénal une nouvelle infraction qui punit les pratiques et les comportements, les propos répétés visant à modifier ou réprimer l'identité de genre vraie ou supposé. Et les peines, c'est 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende et 45 000 euros d'amende si la victime est mineure. Donc on voit bien là le danger de vouloir condamner les parents et les médecins, sauf que le pire, c'est que dans tous les pays qui sont en avance sur nous, on voit qu'ils mettent des garde-fous partout, mais en France, on a toujours préféré l'idéologie à l'expérience.
Merci Arthur de Vatrigan. Dans un instant, après la publicité, vous allez voir Michel Geoffroy et Hénarc, et une grande réflexion sur le mondialisme à quelques heures de l'ouverture du forum de Davos. Ça va être assez intéressant ce débat. Rendez-vous dans un instant juste. Il est 19h30 sur CNews, l'information. C'est avec vous, Barbara.
Dans l'actualité, ce samedi, cette promesse formulée par Gabriel Attal, celle de 32 milliards d'euros supplémentaires d'investissement pour le système de santé. Le Premier ministre l'a annoncé lors de son déplacement au CHU de Dijon avec la ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin. Parmi tous les problèmes à résoudre, l'hôpital est en haut de la pile. Voici ce qu'a déclaré Gabriel Attal. Une mosquée dégradée en pleine prière, ça s'est passé dans le Finistère. Un individu a essayé de mettre le feu à la porte du lieu de culte. Sur le réseau social X, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a adressé son soutien aux musulmans du Finistère et annoncé qu'une enquête avait été ouverte. Enfin, au 99e jour de guerre entre Israël et le Hamas, des dizaines de personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, dont le sud a été pilonné par l'armée israélienne. Sous les bombes, l'enclave palestinienne est toujours coupée du monde. Depuis vendredi, le conflit s'est propagé au Yémen avec 2 épisodes de frappes américaines et britanniques contre les rebelles houthis au Yémen.
Nous sommes toujours avec Mathieu Bacqueté, Arthur de Vatrigan, Michel Geoffroy est avec nous. Merci, bonsoir Michel Geoffroy, narcissiste, grand spécialiste du mondialisme. Pourquoi avoir invité Michel Geoffroy ce soir ?
Alors cette semaine se tiendra à Davos le fameux forum de Davos, qui est l'objet de bien des fantasmes probablement, c'est-à-dire on s'imagine quelquefois que c'est le point central du gouvernement mondial, bon d'accord, catégorie fantasme, mais il y a néanmoins un forum qui s'y tient sous le signe d'une idéologie et qui est associé à une mouvance, une sociologie, tout ça, et Michel Geoffroy a écrit au livre notamment « La superclasse mondiale contre les peuples » chez Via Romana il y a quelques années, et c'est à cette lumière que je le reçois ce soir. Michel Geoffroy, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Davos, le terme évoque beaucoup de choses, et il évoque surtout pour plusieurs ce que vous avez appelé une superclasse mondiale. Alors, qu'appelez-vous cette superclasse mondiale? Et ensuite, on parlera de l'idéologie qu'on lui prête, le mondialisme. Mais qu'appelez-vous de la superclasse mondiale?
Alors, la superclasse mondiale, c'est une expression qui a été utilisée d'ailleurs par Samuel Huntington, qui désigne un phénomène. Un phénomène qui a de multiples facettes. Fondamentalement, la première signification, c'est, je dirais, l'usurpation de la souveraineté politique par la puissance économique et financière mondialisée et dérégulée, phénomène qui s'est produit dans la deuxième partie du XXe siècle. On pourrait y revenir. Ça désigne aussi un phénomène sociologique que Christopher Lasch avait désigné sous le terme de la révolte des élites. D'une certaine façon, on pourrait dire que c'est la réalisation d'un roman de science-fiction, La révolte d'Atlas, qui décrivait un monde où, à un moment donné, les riches, les puissants, décidaient de s'isoler du reste de la population et considéraient qu'il ne fallait plus supporter les improductifs, comme le dit le roman. Ça, c'est la logique.
Le roman de Ayn Rand.
Voilà, d'Ayn Rand. Et la logique de la révolte des élites, c'est que pendant très longtemps, toute une partie du XXe siècle, on a eu peur de la révolte des peuples, la révolte populaire, notamment la révolte du prolétariat. Mais Christopher Lage, dans les années 70, dit « Mais non, la vraie révolte, maintenant, elle vient des élites qui se sont coupées du peuple. » Et je dirais, comme le disait Aristote, déjà, l'oligarchie, c'est l'aristocratie qui a perdu le sens de la morale et du bien commun. C'est ce phénomène s'est produit également chez nous, et en particulier parce que avec c'est la conséquence notamment de l'effondrement du communisme, la fin de la grande peur des possédants qui maintenant n'ont plus peur des peuples, hein, ce qui n'était pas encore le cas dans une bonne partie du XXe siècle. Le troisième signification, je dirais, de la superclasse mondiale, c'est la post-démocratie. La conséquence de la révolte des élites, c'est la mise en place progressive en Occident d'un système politique que vous avez d'ailleurs parfaitement analysé dans votre dernier essai, d'un système post-totalitaire qui est une sorte de totalitarisme léger mais en même temps très prégnant et qui impose à la société des évolutions qu'elle ne veut pas. C'est aussi une des conséquences de cette révolte des élites. On impose à la société, on impose au peuple des évolutions qu'ils ne veulent pas. Puisqu'au contraire, aujourd'hui, les peuples souhaitent avant tout la préservation de leur cadre de vie. Ils ne souhaitent pas le changement perpétuel. Bon. Alors le dernier point, la superclasse mondiale a aussi une signification géopolitique, voire eschatologique, car aujourd'hui, elle est incarnée fondamentalement par les pays anglo-saxons, c'est-à-dire le puritanisme et la prétention à vouloir créer un monde idéal, à vouloir créer le paradis sur Terre. C'est une hérésie, en fait, au plan religieux, vouloir créer le paradis sans attendre la fin des temps. Donc ça, c'est un élément important, notamment de toute la logique de la destinée manifeste que les puritains nord-américains pensent avoir. Donc le terme superclasse mondiale désigne l'imbrication de ces phénomènes, car tous ces phénomènes sont imbriqués les uns dans les autres.
Alors, arrivons au deuxième terme, avant d'embrasser directement la question de Davos, le terme mondialisme. On nous dit souvent que c'est un terme conspirationniste, complotiste et tout ça. Est-ce que le terme mondialisme décrit une réalité, une idéologie, une tendance?
Oui, alors, je crois qu'il faut se garder de deux travers quand on parle de la superclasse mondiale. Premier travers, considérer qu'elle n'existe pas. Et donc, pour reprendre votre question, finalement, le mondialisme n'existe pas, le globalisme n'existe pas, pourtant... Quand vous verrez, Davos utilise très largement le terme global, au sens anglo-saxon, donc au sens mondialiste. Ça, c'est la première erreur, parce que si on ne comprend pas ces phénomènes structurants de longue durée, que j'ai évoqués rapidement, on ne comprend pas le monde dans lequel on est, on ne comprend pas ce qui se passe en Occident, on ne comprend pas pourquoi il n'y a plus d'alternance politique réelle, on ne comprend pas pourquoi des gouvernements s'obstinent à imposer à la population des réformes qu'elles ne veulent pas, et on ne comprend pas pourquoi, quelles que soient les majorités, elles conduisent la même politique. Donc, c'est-à-dire, si on n'intègre pas ce phénomène nouveau, qui est relativement nouveau dans l'histoire, même si l'oligarchie est quelque chose d'ancien, la conjonction de ces évolutions économiques et géopolitiques, elle, est nouvelle, on ne comprend pas le monde. La deuxième erreur, symétrique, c'est l'erreur des complotistes, c'est de croire que la superclasse mondiale a les attributs de la divinité. Elle est omniprésente, omnipuissante. Tous les événements qui existent dans le monde sont l'œuvre de son action souterraine. Je pense que c'est une erreur, parce que la superclasse mondiale, ce sont des hommes, ce sont d'ailleurs plutôt des hommes blancs de plus de 50 ans, d'ailleurs, qui agissent. Mais comme ce sont des hommes, ils sont faillibles, ils peuvent se tromper. Et on voit aujourd'hui, et nous vivons justement aujourd'hui, l'effondrement du rêve de la superclasse mondiale. Le monde est en train d'échapper aux mondialistes. C'est pour ça qu'ils commencent à paniquer. Donc, si vous voulez, le terme mondialiste désigne une réalité, un projet. Il y a un projet, un agenda qui n'est pas caché. Là aussi, le complotisme se trompe. Davos ne cache absolument pas ses travaux. Ses travaux sont publics, on peut les voir. Bon, ce n'est pas le cas de tous les forums. Bilderberg est beaucoup plus discret, bien sûr. Mais ces gens n'hésitent pas à écrire, à affirmer haut et fort ce qu'ils veulent faire.
Alors, justement, Davos, et ensuite la parole à Arthur de Matrigan, mais Davos... quelle est la fonction d'un forum comme celui-là dans la dynamique qui est la nôtre aujourd'hui de gouvernance globale, l'idéologie mondialiste, la superclasse mondiale dont vous nous parlez? Quelle est la fonction d'un forum comme Davos? Il y en a d'autres, vous l'avez dit, mais un forum comme Davos particulièrement.
Alors, selon la légende dorée de Davos, Davos a été créé par Klaus Schwab, qui est professeur d'économie à l'Université de Genève, qui visait à diffuser en Europe les bonnes pratiques managériales américaines. D'ailleurs, au départ, Davos s'appelait le Symposium européen du management. Bon, ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était de resserrer les liens transatlantiques. C'est la politique américaine qui se développe dans les années 70, notamment pour essayer de lutter contre la mauvaise image de marque des États-Unis à cause de la guerre du Vietnam. Donc il y a une tentative, c'est aussi l'époque où on va créer la trilatérale, qui a le même objectif dans un domaine plus diplomatique, hein, en intégrant le Japon. D'autre part, Davos, ça, normalement, est un forum, comme au sens étymologique du terme, c'est un lieu où on parle, et donc on rassemble des gens pour parler des grands problèmes mondiaux. Déjà, on commence à voir apparaître ce terme de monde. Et enfin, Davos, c'est une pépinière de talents. Hein, je rappelle qu'on a créé, dans les années 90, les Young Leaders for Tomorrow, qui sont devenus les Young Global Leaders, qui a été une pépinière de talents intéressants. Emmanuel Macron a été la promotion 2016. Notre Premier ministre aujourd'hui a été de la promotion 2020. Donc, si vous voulez, c'est aussi une pépinière. Ça, c'est une vieille idée de l'oligarchie anglo-saxonne. Ça renvoie aux travaux, à ce que faisait notamment ce qu'on appelait la table ronde britannique dans les années, à la fin du 19e siècle. Lord Milner avait créé ce qu'il appelait ironiquement son jardin d'enfants, c'est-à-dire qu'on suivait un certain nombre de jeunes anglais dans les universités anglaises. On leur diffusait une idéologie, à l'époque c'était l'idéologie du Commonwealth of Nations, c'était des gens qui créaient des réseaux d'influence, hein, ça servait. Donc Davos, c'est aussi ça, c'est un cercle de réflexion, je dirais c'est une sorte de chambre d'écho du politiquement correct, hein, il suffit de voir les thèmes qui sont évoqués, mais c'est aussi une pépinière de talent de créer des gens, de pousser des gens qui auront une certaine manière d'appréhender l'action politique. Parce qu'une des caractéristiques de cette superclasse mondiale, c'est pour ça que ce n'est pas une aristocratie, elle ne se met pas en avant. Elle préfère l'influence, elle préfère pousser un certain nombre de gens, mais les grands milliardaires qui constituent le cœur nucléaire de cette superclasse mondiale, les grands décideurs économiques et financiers, généralement ne font pas de carrière politique. C'est très rare. Ils préfèrent influencer les décideurs politiques. Donc le forum de Davos sert notamment à ça.
Arthur de Vatrigan.
Justement, est-ce que la démocratie est-elle un risque pour la superclasse mondiale ou au contraire une alliée, encore, d'autant plus si on est dans une structure très jacobine?
Oui, alors effectivement, d'ailleurs, tous les ans, chaque forum, il y a le catalogue des risques, hein, qui est fait. Tout est risque, en fait, hein, pour Davos, quand vous regardez. D'ailleurs, quand vous regardez ce qui a été fait pour ce qui va être présenté au forum de 2024, tout est risque. Et alors, en particulier cette année, les élections dans un certain nombre de pays, puisqu'il y a beaucoup de pays pour lesquels il y a eu des élections, ceci est présenté comme un risque.
Hein. Un risque de quelle nature ?
Eh bien, alors c'est un risque systémique parce que les élections peuvent remettre en cause d'abord le fonctionnement de l'économie, c'est-à-dire en clair, peuvent remettre en cause la doxa néolibéral et libre-échangiste. Les élections peuvent remettre en cause le personnel politique qui existe. Et surtout, c'est un terme constante de la réflexion de Davos sur les élections, c'est la désinformation. Rappelez-vous, dans le forum de Davos de 2017, qui a lieu donc après deux grands événements importants, le Brexit et l'élection de Donald Trump. Immédiatement, Davos dit « Oh là là, si les gens votent mal, c'est qu'ils sont désinformés. » Et donc, il est urgent de mettre en place un contrôle de l'information. Et comme par hasard, on va voir apparaître un certain nombre de pays qui vont se mettre en place des dispositifs, notamment l'Allemagne, puis la France, pour lutter contre, normalement, la désinformation. Donc, pour
et
Davos,
qu'est-ce qu'on appelle désinformation dans ce cas?
La désinformation, ce sont des mauvaises idées. Ce sont les mauvaises idées, les idées qui vont à l'encontre précisément de la doxa de la superclasse mondiale, c'est-à-dire qui vont à l'encontre, pour faire court, du cosmopolitisme, de la volonté de dépasser les nations et de la nécessité de mettre en place une gouvernance mondiale.
Alors, on y arrive justement. Alors, on dit mondialisme, donc on comprend le terme mondialisme, une perspective qui transcende les nations, qui pourrait même les abolir. Mais si on cherchait à donner un contenu idéologique au projet des différentes tendances qui, par ailleurs, s'entrechoquent de ce que vous appelez la superclasse mondiale. Oui. Je devine que dans cette classe, il y a des intérêts contradictoires. Ils ne sont pas tous d'accord sur tout. Non. Mais si on identifiait quelque chose comme un noyau idéologique, ou à tout le moins leur vision de ce qu'est le bien commun mondial, qu'est-ce que ce
serait? Oui, alors déjà, la notion de bien commun mondial est
une sorte d'oxymore. J'entends bien, mais si de leur point de vue, ça n'en est probablement pas un.
Oui, alors non, l'élément, je crois, central, c'est le globalisme. C'est-à-dire cette idée qui est perpétuellement répétée à Davos, que nous serions confrontés aujourd'hui à des problèmes d'une telle dimension et d'une telle nouveauté et d'une telle gravité que seule une action mondiale et coordonnée est efficace. Ça, c'est, je dirais, le fond idéologique de l'oligarchie depuis la fin du 19e siècle.
Ce qui rassemble l'ensemble de des tendances.
Ça, c'est cette idée centrale. On ne peut plus faire. Mais c'est ce qu'écrivait Jean Monnet dans ses mémoires. Rappelez-vous, il disait « Les nations souveraines du passé ne sont plus le cadre pour régler les questions du présent. » Donc, c'est cette idée centrale. C'est une idée déjà contestable en elle-même. Parce que plus on globalise les problèmes, plus on les complexifie. Hein. Rappelez-vous l'échec de l'économie dirigée dans l'Union soviétique. Alors imaginons une action mondiale. Une action mondiale, c'est une action compliquée. Deuxièmement, l'idée que nous serions les premiers dans l'histoire à être confrontés à des problèmes vitaux, ça c'est une autre erreur. C'est pas vrai. Nos ancêtres ont aussi été confrontés à des problèmes vitaux. Bon, donc bref. Donc premièrement, le globalisme, c'est cette croyance que il faut tout globaliser, qu'à chaque fois, il faut des démarches mondialisées. Nous avons un exemple évident avec le climat, qui se traduit notamment dans les COP, dont le bilan est généralement médiocre. Mais c'est cette idée centrale. Il y a un sous-jacent, évidemment, derrière ça. C'est l'idée que la souveraineté nationale est dépassée, hein, et qu'il faut mettre en place ce qu'on appelle une gouvernance mondiale. Le terme gouvernance n'est pas neutre, hein, puisqu'il est... Il provient de l'économie d'entreprise, hein, corporate governance. C'est l'idée, ça c'est l'idée qu'évoquait notamment Rockefeller dans un article à Newsweek hein, de 99, qui dit qu'il faudrait que finalement quelque chose remplace les États. Et je pense que le pouvoir privé est le mieux à même de remplacer les États. Là aussi c'est un oxymore. Le pouvoir par définition était collectif. L'idée qu'on ait un pouvoir privé, c'est-à-dire un pouvoir que les acteurs privés est une action politique. Ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est une autre caractéristique de ce qu'on appelle la superclasse mondiale. C'est l'idée que les grandes entreprises, les grandes institutions financières peuvent être militantes dans le domaine politique et social. On le voit tous les jours. Hein.
Alors, il nous reste le temps d'une dernière question, 1 minute 20. Arsène de Vatrigan pour la dernière question.
Vous avez dit, donc, le lieu de pouvoir, ils investissent la politique, mais ils se mettent en retrait. Les médias, depuis 2017, quels sont les autres lieux de pouvoir qu'ils investissent?
Alors, j'ai essayé de présenter ce phénomène en 4 cercles concentriques, si vous voulez, qui correspondent à des lieux de pouvoir. Bon, le centre nucléaire, c'est le pouvoir économique et financier mondialisé et dérégulé, qui est largement anglo-saxon, hein, puisque c'est là où il y a les plus grandes entreprises mondiales et les plus grandes institutions financières. Le deuxième cercle concentrique, c'est le pouvoir médiatique, parce que le pouvoir médiatique sert à façonner l'opinion. Hein, donc toujours cette logique d'influence.
Ça veut dire qu'ils investissent dans les médias?
Oui, la plupart des médias sont aujourd'hui la propriété des grandes puissances financières dans le monde occidental. Hein. Le troisième cercle est plus large, c'est ce qu'on appelle la société civile. Davos parle beaucoup de société civile. D'ailleurs, le conseil d'administration de Davos, significativement, est composé à moitié de représentants des milieux économiques et d'autre part de la société civile. Pas du tout les États, hein, qui sont complètement éliminés. Très, très significatif, et donc notamment les ONG qui jouent aujourd'hui un rôle très important de relais du mondialisme. Pensons au rôle des ONG en matière d'immigration, etc. Et alors le dernier cercle, C'est le cercle, que j'ai appelé méchamment le cercle de la trahison des élites publiques. C'est-à-dire que les États sont aujourd'hui la dernière roue du carrosse, comme on dit vulgairement. Les États sont devenus, non plus vraiment la souveraineté, non plus les moyens d'action, ils sont devenus avant tout une puissance exécutante, et notamment le seul pouvoir réel dans les États, c'est le pouvoir judiciaire aujourd'hui, qui a pris le pouvoir, mais qui a pris le pouvoir sur les législateurs. Bon, voilà les différents lieux de pouvoir qui sont aujourd'hui investis, plus ou moins directement, mais toujours avec une grande discrétion. La superclasse mondiale, elle réalise le panopticon, le fameux panopticon, c'est-à-dire cette institution où on peut voir les gens sans être vu soi-même. Ça, c'est ça. Les vrais décideurs, on ne les voit pas.
Sur cette parole inquiétante, Michel Geoffroy, je vous remercie pour votre passage ce soir face à votre côté à CNews.
L'info se poursuit évidemment et dans quelques instants, c'est l'heure des pros. À tout de suite, merci à tous les trois et à la semaine prochaine bien sûr.